Sportdistu sur RFI.
Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes encore debout, vous avez raison, c'est l'heure de Mondial Sport au programme ce soir du football. La rentrée des classes en Angleterre est déjà une bonne note pour Manchester City. Les Citizens remportent le traditionnel Community Shield, victoire 2-0 sur un Chelsea new look. L'analyse dans un instant de Bruno Constant. À l'assaut des 1000 collines, c'est parti pour le 10e tour du Rwanda. Première étape remportée aujourd'hui par l'Algérien Azdine Lagam, mais le meilleur reste à venir. Reportage d'Olivier Pron, du cyclisme à l'athlétisme, épilogue à Asaba au Nigeria des championnats d'Afrique, une 21e édition mouvementée pour tout le monde, vous verrez pourquoi. Et puis focus en fin d'émission sur une compétition dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, les Gay Games. Paris accueille l'édition 2018, l'objectif, combattre l'homophobie dans le sport. Vous avez le casting, vous avez le programme, alors ne bougez pas, on y va. Et d'abord, comme promis, les premiers frissons de la saison 2018-2019. En France, on a le trophée des champions remporté hier par le PSG aux dépens de Monaco. L'Angleterre a aussi son match de rentrée en VO. Ça s'appelle le Community Shield. Manchester City, le champion en titre face à Chelsea, le vainqueur de la Cup. Ça se jouait à Wembley et à l'arrivée 2-0 pour les Citizens. Pour en parler, Bruno Constant, notre spécialiste foot anglais. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Victoire méritée pour Manchester City à l'issue d'un match, disons, plutôt plaisant.
Absolument. Ben c'est le Community Shield, le traditionnel Community Shield qui lance la saison anglaise. C'est le vainqueur de la Cup, Chelsea, face au champion d'Angleterre, Manchester City. Alors l'affiche était prometteuse. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de suspense, ou en tout cas pas vraiment de match entre les deux équipes, puisque les Mancuniens ont totalement dominé cette rencontre grâce à une grande maîtrise, en tout cas une plus grande maîtrise de son jeu, un doublé d'Aguero qui a franchi la barre des 200 buts sous le maillot des Citizens, mais également un super Bernardo Silva à la baguette. La principale raison est simple, City n'a quasiment pas bougé durant l'été, en dehors de l'arrivée de l'Algérien Riyad Mahrez et du retour de Benjamin Mendy, le Français qui est presque considéré comme une recrue à City, étant donné sa grave blessure qui lui a fait manquer toute la saison dernière. À Chelsea, en revanche, l'équipe est en plein chantier. Le club a dû gérer le départ compliqué d'Antonio Conte cet été. Maurizio Sarri, son successeur, est arrivé il y a 3 semaines seulement. Il a donc eu peu de temps avec ses nouveaux joueurs. Et puis, il ne faut pas oublier que les nombreuses absences, les Belges Hazard et Courtois, dont l'avenir reste flou à Chelsea, ils sont tous les deux sollicités par le Real Madrid, mais aussi les champions du monde, Olivier Giroud, et surtout N'Golo Kanté, qui a énormément manqué dans l'entrejeu des Blues aujourd'hui.
Alors Bruno, vous en avez parlé un petit peu, un homme particulièrement observé aujourd'hui, Maurizio Sarri, c'était la première de l'Italien sur le banc des Blues, première ratée ou alors j'exagère ?
Non, c'est difficile, on peut difficilement juger l'apport de Sarri sur ce match, on sait ce qu'il a démontré avec son précédent club, le Napoli, on sait ce qu'il veut mettre en place à Chelsea et c'est radicalement différent de ce que faisait Antonio Conte, c'est un jeu beaucoup plus porté vers l'offensive avec un pressing très haut, le retour à une défense à 4, avec un effectif qui est construit pour répondre aux besoins d'une défense à 3. Tout ça, évidemment, ça demande du temps. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'excitation sur l'arrivée de Sarri du côté de Chelsea, et même chez ses adversaires, puisque Guardiola, son adversaire du jour, n'a pas caché son excitation de voir débarquer Sarri en Angleterre et ses nouvelles idées. On avait eu d'ailleurs un premier aperçu de la patte Sarri lors des rencontres amicales face à Arsenal ou l'Inter, avec vraiment une volonté de jouer très haut, d'un jeu de passe courte qui s'appuie sur son nouveau métronome, le Brésilien Jorginho, ancien du Napoli, qui a préféré suivre son ancien entraîneur plutôt que d'aller à Manchester City. C'est donc un virage à 180 degrés voulu par le club et Roman Abramovich, et forcément ça demande du temps.
C'est bien sûr un petit peu tôt pour tirer des leçons définitives, mais côté City maintenant, quels enseignements nous donne ce match ? À quoi peut-on s'attendre de leur part cette saison ?
On a vu surtout que Chelsea City était déjà en place et déjà rodé, malgré les absences de De Bruyne, de Sterling, de David Silva ou encore d'Ederson, son gardien. C'est l'équipe qui joue dans la continuité de la saison passée, qui avait survolé le championnat, semble encore plus fort cette saison. Il y a l'émergence du petit Foden qui jouera sa carte cette saison. Il y a l'assurance la grandissante de John Stones qui a été aidé par sa très bonne Coupe du Monde avec l'Angleterre. L'influence grandissante de Bernardo Silva, qui avait eu très peu de temps de jeu la saison passée, ou encore le renfort de Mahrez, qui va apporter beaucoup de choses sur ce côté droit. Mais évidemment, le défi est de taille pour Manchester City. Il faut le rappeler, aucun champion sortant n'a réussi à conserver son trophée depuis Manchester United en 2009.
Eh bien, on verra ça tout au long de cette saison. Rapidement, les deux rendez-vous pour City et pour Chelsea la semaine prochaine.
Alors, Chelsea se rendra à Huddersfield et Manchester City affrontera Arsenal.
Arsenal-Manchester City dimanche prochain donc à l'Emirates Stadium. Ça commencera fort cette première ligue 2018-2019. Merci Bruno. Bonne soirée. Avant de passer au football africain, un mot pour vous dire qu'Arturo Vidal, le milieu de terrain chilien du Bayern Munich, devrait s'engager demain pour le FC Barcelone. Il retrouvera en Catalogne Moussa Ouagé, le jeune latéral sénégalais, transféré lui vendredi. Et puis la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, c'est parti depuis aujourd'hui en France, en Bretagne. Pour être exact. Et la France, justement, a dominé le Ghana 4-1 dans les autres matchs. Victoire du Mexique sur le Brésil, 3-2 des Pays-Bas aux dépens de la Nouvelle-Zélande, 2-1. Et puis, ça commence mal pour les tenants du titre, Hugo Moissonnier. Petite devinette pour vous. Vous savez qui est tenant du titre dans cette Coupe du Monde féminine moins de 20 ans ?
Alors, c'est la Corée du Nord.
Et bravo.
Pas la plus grande nation de football, mais s'est brillée dans cette compétition.
Bravo, vous l'aviez. Et la Corée du Nord, c'est mal parti pour elle, puisqu'elles ont perdu donc contre l'Angleterre. 3-1. Hugo Moissonnier, si vous êtes là, c'est pas pour nous parler de la Corée du Nord, mais plutôt du foot en Afrique, avec une nouvelle visite d'inspection de la Confédération africaine de football qui débute demain au Cameroun.
Et oui, la CAF veut s'assurer que le pays d'Afrique centrale fait ce qu'il faut pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en juin 2019, la première CAN à 24 équipes. On se souvient des doutes émis à voix haute par le président de cette CAF, le malgache Hamad, l'été dernier. La rumeur qui voudrait que l'organisation du tournoi soit retirée au Cameroun, puis confiée au Maroc qui jouerait les pompiers de service, est persistante. Elle a été balayée ce samedi par le ministre des Sports camerounais, Pierre Ismaël Bidong Kouat.
Je voudrais, tout en condamnant cette campagne malsaine de fake news, dire qu'il s'agit de manœuvres qui visent à jeter du discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des populations sur une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun sportif, fier que son pays abritera bientôt le troisième plus grand événement mondial en matière de football, est reconnaissant à la CAF et heureux d'attendre la visite des inspecteurs de la CAF qui permettra le réajustement des efforts de toutes les parties prenantes aux standards exigés par cette instance fêtière du football continental.
Le ministre des Sports camerounais, cette visite d'inspection de la CAF dans son pays, elle débutera donc demain, elle s'achèvera le 14 août.
Allez, changement de braquet dans Mondial Sport, on parle cyclisme maintenant, 10e tour du Rwanda. Le peloton est parti ce matin de Rwamagana pour une première étape de 97 km dans la roue des coureurs à micro RFI, celui d'Olivier Prombe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
97 km aujourd'hui, je le disais, une mise en route en quelque sorte, cette première étape remportée par un vieux briscard, l'Algérien Hasdine Lagab.
Un filou, un accrocheur et surtout à 32 ans Thomas, un très bon coureur et ça ne vous aura pas échappé. Quatrième tour du Rwanda pour Hasdine Lagab, troisième victoire d'étape après celle de 2013, il en avait remporté deux. Mais surtout premier maillot jaune pour celui qui avait décroché ici au Rwanda en février dernier sa première médaille sur route au championnat d'Afrique. Après 7 participations, une médaille de bronze derrière 2 Érythréens, c'est dire s'il aime le Rwanda, l'Algérien, il aime beaucoup, beaucoup ce pays et il a bien senti le coup aujourd'hui à Rwamagana, parti dans la bonne échappée, dans l'avant-dernier des 15 tours de circuit, 8 hommes devant à 10 km, puis 2 dans le dernier kilomètre, puis 1 au final devant l'Espagnol David Lozano Riba, Hasdine Lagab.
On est très content de concrétiser ça en une victoire et en plus avec maillot jaune, c'est vraiment fantastique. On ne s'attendait pas du tout, on voulait plutôt arriver au sprint avec notre sprinter, notre jeune sprinter. Mais bon, dans la fin, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Il y avait une échappée qui était partie, je suis sauté dedans et tout le monde a collaboré, donc voilà, c'est parti jusqu'au bout et on est très content de cette victoire. Et voilà, maillot jaune, c'est la première fois au Rwanda. Le tour devient très prestigieux. C'est ma course préférée. D'habitude, j'essaie de faire de mon mieux. mais je suis très content d'être ici. Donc,
Vous êtes increvable.
Ah non, pas à ce point.
La GAB 1, donc, Lozano Riba 2, troisième à 10 secondes, le Sud-Africain James Fourry, juste devant le Suisse Jonas Doering, cinquième à 12 secondes, le premier Rwandais Valens Ndayisenga, un ancien double vainqueur de l'épreuve hein, en 2014 et 2016, grand animateur de cette première étape. Il faudra bien sûr encore veiller sur lui et compter sur lui côté Rwandais dans les prochains jours, il est très en forme. Le peloton est pointé à 22 secondes, Thomas, on y retrouve 4 Angolais sur 5, c'est pas si mal, et 4 Camerounais sur 5 aussi, même si ça a été compliqué, bien que plat, nous dit Clovis Kamzong Abesolo.
Déjà, cette première étape, c'était trop, trop dur, parce qu'on a fait près de 43 de moyenne. Je pense que c'était une étape très difficile, la remise en jambe. On va essayer de donner tout ce qu'on a à la jambe pour essayer de faire le classement. Pourquoi pas gagner aussi une étape?
Parce que ça va être de plus en plus difficile, c'est sûr. Lundi, mardi, mercredi, ça va crescendo. Aujourd'hui, ça montait pas.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'était une étape le moins facile. Demain encore, ce n'est pas trop dur, mais à partir de mercredi, je pense que c'est la haute montagne qui commence. On va essayer de s'accrocher pour donner le maximum de nous.
Donc, il n'y a pas de découragement? Jamais?
Non, il n'y a pas de découragement. L'objectif, c'est terminer le Tour du Rwanda.
Même si c'est dur.
Oui, même si c'est dur, l'objectif c'est de finir.
Et les pauvres Camerounais, Olivier, n'ont pas fini d'avoir besoin de courage, de pugnacité, car dans les jours qui viennent, ça risque d'aller de mal en pis pour les non-grimpeurs.
Oh oui, ça va être dur, c'est beau, mais c'est dur le Rwanda, on le sait, et le coordinateur général de l'épreuve, Olivier Grandjean, le confirme. Bah, bien sûr, c'est lui qui le fait le parcours, alors bon, il le connaît.
Il est difficile, hein, faut pas se le cacher, il est même très difficile cette année. On essaye de le faire progressif, au fil du jour c'est très difficile. L'étape avec la nouvelle route entre Musanze et Karungi va être très très difficile. C'est une route qu'on fait dans les deux sens, une fois dans un sens le jour et dans l'autre sens le lendemain. Après, on a l'arrivée au parc des volcans qui sera quand même très difficile. On arrive à 2300 mètres d'altitude. Et puis alors les deux dernières étapes, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour cette dixième édition, avec le final dimanche, deux fois le passage au mur de Kigali. Bon, là on est sûr que ça va arriver un par un.
Et ça, ce sera dimanche, le mur de Kigali, le Koppenberg. Vous connaissez ça aussi, hein, Thomas, le Koppenberg du Rwanda. Et Olivier Grandjean n'a pas parlé des 195 kilomètres de mardi, hein, entre Ouyé et Musanze, traversée sud-nord du pays carrément, et donc quelques collines hein, au programme.
Le Koppenberg, en effet, Olivier, ça me rappelle de beaux souvenirs. La grande question sur ce tour du Rwanda, vu le rapport de force, vu le parcours de cette édition 2018, la grande question, c'est la suivante. Qui pour battre les Rwandais?
79 coureurs au départ, toujours en course, 18 Rwandais, dont deux anciens vainqueurs. C'est vrai que sans les Érythréens, ça s'annonce compliqué côté rivalité. Question posée à notre confrère de l'équipe, grand spécialiste du cyclisme africain, Philippe Legarce.
Les seuls qui sont capables aujourd'hui de les contrer, c'est des individualités, c'est pas vraiment des équipes. On pourrait trouver des individualités chez les Sud-Africains, qui sont quand même des coureurs expérimentés, habitués aussi à ces courses ici au Rwanda. Et puis il y a les Éthiopiens qui excellent en montagne et c'est des électrons libres, un peu feu follet, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Et ça peut perturber les Rwandais, mais c'est vraiment des individualités qui font pas. Il n'y aura pas une vraie stratégie de coalition contre le Rwanda, c'est impossible. Ils sont trop nombreux et personne va s'allier pour les battre. Donc ça sera des coups par-ci, des coups par-là et ça va être c'est assez compliqué en fait à contrer les Rwandais parce qu'ils ont un esprit très collectif. Mais je pense moi, un coureur comme Buru par exemple, Temesgen Buru, l'Éthiopien qui a un peu l'habitude maintenant des courses en Europe. Il y a également Azedine Lagab qui a gagné aujourd'hui, même s'il passe pas la montagne, mais c'est un solide qui peut. Il peut quand même poser des problèmes. Il est toujours, il s'accroche toujours, il est toujours présent et ça peut perturber un peu la sérénité des Rwandais.
Voilà pour Philippe Legarce et la sérénité des Rwandais qui sont 18, peut-être 17. Hein. Adrien Nyonchuti a eu du mal aujourd'hui, pourtant chez lui à Rwamagana, le héros des premières éditions, le premier pro rwandais, le premier Rwandais à disputer, à se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'était en 2012. Il n'était pas venu sur son tour depuis 2013. Il a 31 ans et il a terminé à 8 minutes 42 de la GAB.
Les aventures ou les mésaventures d'Adrien Nyonchuti et des autres, on les suivra toute la semaine avec vous. Merci Olivier Pron, bonne soirée. Je précise simplement le programme de l'étape de demain lundi, Kigali-Ouyé, 120 km pour rejoindre cette ville située au sud du Rwanda. Le retour d'Hugo Moissonnier pour parler des championnats d'Afrique d'athlétisme. Clap de fin à Saba, l'épilogue d'une édition qui aura marqué les esprits, pas toujours pour les bonnes raisons. Sur le plan sportif, Marie-Josée Talou gardera tout de même, on l'imagine, quelques bons souvenirs de son séjour dans le sud du Nigeria.
La reine actuelle du sprint ivoirien, on rappelle que Muriel Aouré n'était pas à Saba, repart avec 3 médailles, dont 2 en or. Une première pour elle en championnat d'Afrique, vainqueur du 100 mètres, médaillée d'argent à l'issue du relais 4x100. Elle remporte également le 200 ce dimanche en 22 secondes et 50 centièmes. Elle devance la Camerounaise Bevina Abesolo. Le doublé pour Marie-Josée Talou, vice-championne du monde du 100 et du 200 mètres en 2017. On le rappelle, elle nous livre les recettes de son succès.
Je suis née talentueuse. J'ai travaillé pour arriver jusque-là. Je connais mes galères. Je m'entraîne dur. J'étais remontée jusqu'à bloc. Je voulais ramener cette médaille coûte que coûte. Donc voilà, j'ai ramené cette médaille d'or. Ma mission ici s'achève. Après, la saison n'est pas encore terminée pour moi, donc voilà, on va continuer encore à s'entraîner pour les autres échéances. Mais déjà, je suis contente pour amener une autre médaille pour le pays à quelques jours de la fête d'indépendance. Donc voilà.
Et pourtant, Marie-Josée Talou, on le rappelle, n'a que peu goûté les problèmes d'organisation nombreux lors de ces championnats d'Afrique à Saba, les premiers au Nigeria depuis 1989. On y reviendra. Sa motivation était au plus bas au moment d'entamer la compétition, mais les mots de son entraîneur, Anthony Koffi, ont peut-être fait la différence. Anthony Koffi.
On s'était donné un objectif, venir pour participer à la compétition africaine pour faire la promotion aussi de notre athlétisme. Donc je lui ai dit, n'oublie pas ce qu'on s'était dit. Et puis, les difficultés, ça fait partie de la vie. Il faut les surmonter pour que demain tu dises, malgré ça, j'ai pu faire ça. Bon, et puis, tous ceux qui supportent Talou, je lui ai dit, regarde tous ceux qui te supportent. Si tu ne cours pas ici, l'aide de ces semaines sera plus grande que ta peine à toi. Donc elle a compris et tout le monde est content.
Anthony Koffi, entraîneur de Marie-Josée Talou, d'Arthur Guessissé également, qui a lui aussi récolté des médailles. 6 breloques en tout pour la Côte d'Ivoire, 6e du tableau final. Objectif atteint pour elle.
Une médaille pour le Bénin également ce dimanche en heptathlon.
Un événement pour le pays, une première en championnat d'Afrique pour Odile Awanwanu. Succès aux dépens de la Burkinabé Marthe Koala au terme des 7 épreuves. On l'écoute.
Ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver sur le podium et prendre la première place, vraiment, je suis très très contente. Je sais que voilà, il faut que je bombarde un peu sur les 800, parce que déjà, avant l'avant-dernière épreuve, j'étais juste devant. Donc il va falloir que Matt, qui est ma concurrente, ne me dépasse pas de 3 secondes. Donc c'est ce que j'ai fait et voilà. Depuis mon arrivée ici, ma bataille c'est de d'avoir la médaille d'or et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente d'aller jusqu'au bout et remporter la médaille d'or pour mon pays, le Bénin.
Les autres résultats du jour, Hugo, avec encore un doublé, celui de la vedette sud-africaine Caster Semenya.
Après le 400, elle s'adjuge le 800, une distance sur laquelle elle n'a plus de rival depuis bien longtemps au niveau mondial. 1 minute 56 secondes, 6 centièmes. Elle détient le nouveau record des championnats d'Afrique sur cette distance. Succès logique également de Béatrice Chepkoch à l'issue du 3000 mètres steeple. La Kenyane, détentrice du record du monde depuis quelques jours, depuis la fin juillet. Elle devance 2 de ses compatriotes. Victoire également de Julius Yego, un autre Kenyan en javelot. Son pays, leur pays, termine en tête du tableau des médailles avec 19 podiums et 11 titres en tout. Alors même que les athlètes kényans sont arrivés tardivement à Saba après un voyage pénible, l'équipe avait été bloquée pendant 2 jours à l'aéroport de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, faute d'avions qui pouvaient les emmener à Saba, mais aussi en raison de problèmes de visa.
Ce qui nous amène forcément à évoquer ces problèmes liés à l'organisation des championnats d'Afrique.
Oui, des problèmes largement relayés sur les réseaux sociaux. À Saba, c'est une ville du sud du Nigeria, peu habitué forcément à accueillir de tels événements. Beaucoup d'athlètes, et pas seulement les Kenyans, ont eu énormément de difficultés pour la rejoindre en avion. Le calendrier des épreuves a dû être modifié au dernier moment. Et quand ces athlètes sont parvenus à bon port, ils ont découvert un stade, le Stephen Keshi Stadium, doté d'une piste passable. Un réservoir d'eau s'est également effondré lors des premiers jours, causant des dégâts réels, mais seulement matériels, heureusement. Bref, quand on se souviendra de ces championnats d'Afrique d'athlétisme 2018, on se souviendra peut-être surtout d'une organisation chaotique. Au micro de RFI, le président de la Confédération africaine d'athlétisme, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum, il réclame davantage d'aide de la part de la Fédération internationale.
Il faut le reconnaître, les athlètes ont eu quelques difficultés pour rallier Asaba à partir de Lagos. Bon, cela a été dû à des situations indépendantes de notre volonté. La première chose, c'était le manque d'informations venant des fédérations elles-mêmes pour annoncer les dates d'arrivée, les numéros de vol, etc. aux organisateurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y avait des vols programmés, mais pour des raisons de météo, ces vols ont été renvoyés. Et on ne peut pas mettre la vie des athlètes dans un risque comme celui-là. 52 fédérations nationales sont ici. C'est le plus grand nombre jamais atteint lors de nos championnats d'Afrique. Ça veut dire que les championnats d'Afrique ont un intérêt pour la jeunesse africaine qui a choisi de pratiquer l'athlétisme. Et la perfection n'est pas de ce monde. Mais le positif l'emporte largement sur le négatif. Et il faut oublier très vite le négatif parce que ça doit simplement nous servir de leçon. Nous allons être plus disponibles, plus exigeants, plus prudents, à travailler de très près avec les organisateurs. Mais peut-être aussi demander plus haut à l'IAF, qui a des experts qui organisent généralement les championnats du monde, de venir nous accompagner, nous apprendre à nos officiels à être plus rigoureux, de manière à ce que les événements en Afrique puissent ressembler aux grands événements du monde.
C'est l'Algérie qui va prendre le relais.
L'Algérie prendra le drapeau ici. Et je connais l'Algérie. L'Algérie est un pays profondément africain qui a l'habitude d'organiser de grandes compétitions. Ils ont organisé des Jeux africains, des Jeux africains de la jeunesse et de nombreuses autres compétitions. Je n'ai pas de doute que l'Algérie relèvera tous les défis.
Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, au micro de Bright Abiola, l'homme qui a permis à RFI de récolter bon nombre de médailles d'or dans ces championnats d'Afrique d'athlétisme.
Voilà, c'est fini pour ces championnats d'Afrique qui laissent leur place à leurs cousins d'Europe. Ce sera à partir de demain. Changement aussi du coup dans ce studio. Hugo Moissonnier cède sa place à Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Thomas.
Alors ces championnats d'Europe auront lieu à Berlin en Allemagne.
Oui, dans le stade olympique, ce stade si particulier où Jesse Owens avait remporté 4 titres olympiques devant Hitler lors des Jeux de 1936. Là aussi où le Jamaïcain Usain Bolt a réalisé ses plus beaux exploits. 9 secondes et 58 centièmes sur 100 mètres et 19 secondes et 19 centièmes sur 200 mètres, c'était en 2009. Les deux records du monde qui n'ont pas été battus depuis en l'absence de la Russie. Toujours suspendue par l'I2F, cette année l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France vont se disputer la première place du tableau des médailles. Des Bleus qui compteront notamment sur le décathlonien Kevin Mayer, le perchiste Renaud Lavilloni ou encore le spécialiste du 800 mètres Pierre-Ambroise Boss pour briller. Boss qui a un statut à défendre cette année après son titre mondial à Londres l'an dernier. Mais il prévient, la course risque d'être délicate.
On est dans un contexte où l'année dernière j'ai gagné les championnats du monde, donc j'ai plutôt intérêt à être bien placé. Plus difficile parce que la demi-finale d'un championnat d'Europe est plus compliquée que celle d'un championnat du monde parce que t'as moins de densité, mais ça va moins vite. T'as pas à te poser de questions quand t'es au championnat du monde, puisque t'as juste à te mettre à fond. Si t'as la forme et que t'as fait une bonne course, tu risques fortement de passer. Alors qu'en championnat d'Europe, on peut être 8 sur la même ligne dans les carreaux et c'est beaucoup plus compliqué parce que tu peux ressentir beaucoup de frustration. Il y a des favoris qui sauteront, c'est certain.
Voilà, Pierre-Ambroise Boss qui n'entrera en piste que jeudi pour les séries du 800 mètres. À suivre ce lundi pour la première journée, les séries du 100 mètres dames et messieurs et qualification du lancer du marteau et du saut en longueur seulement chez les messieurs.
Et puis d'autres championnats d'Europe ont lieu en ce moment à Glasgow en Écosse. Cédric, avec de nouvelles récompenses pour les sportifs français aujourd'hui.
Oui, encore des médailles en aviron par exemple avec le titre pour Hugo Boucheron et Mathieu Androdias dans la catégorie du 2 de couple. Quant à Laura Tarantola, elle a remporté l'argent en skiff, catégorie poids léger. Et puis des succès aussi en gymnastique avec la médaille d'or de Mélanie De Jesus dos Santos au sol. Quant à Marine Boyer, elle a décroché le bronze lors du concours de la poutre.
Autre médaille de bronze aux allures de déception, celle remportée par Mehdi Metella sur l'épreuve reine de la natation.
Oui, le français visait l'or sur le 100 mètres, mais il n'a rien pu faire face à la puissance de la sensation Alessandro Miresi. À 19 ans seulement, l'Italien s'est imposé en 48 secondes et 1 centième devant le Britannique Duncan Scott. Metella, lui, n'a signé que le troisième chrono en 48-25, après néanmoins un superbe retour dans la deuxième partie. Mais il semble se contenter de cette médaille de bronze après plusieurs mois compliqués à l'entraînement. Désormais tourné vers l'avenir, le Français espère connaître une année 2019 plus proche de ses standards habituels.
Bah, je reviens de loin, de très loin. Il n'y a pas un mois, je nageais 49-9, alors faire ce temps-là, c'est déjà pas mal. Je suis quand même satisfait de moi. Si j'avais mon niveau, je serais de loin déjà passé de loin devant, mais c'est comme ça la vie. Hein. C'est... On ne peut pas être en forme tous les années, et l'année prochaine, ça va plutôt me sourire.
Voilà, Mehdi Mettez là au micro de nos confrères de France Télévisions. Rendez-vous donc pour lui l'an prochain, les championnats du monde. Ce sera à Gwangju, en Corée du Sud.
Merci Cédric pour ce point complet sur les différents championnats européens du moment. Une compétition moins classique maintenant. 10 000 participants, 300 000 spectateurs attendus, 36 disciplines. Une seule bannière, l'arc-en-ciel, symbole de la communauté homosexuelle. Les Gay Games ont débuté hier à Paris. Ils s'achèveront dimanche prochain. Précision, gay ou non, tout le monde peut participer. La performance ici est très secondaire. Il s'agit d'abord de promouvoir la tolérance. C'est la 10e édition de ces Jeux. C'est aussi l'occasion de se rappeler que l'homophobie est encore présente dans certains vestiaires, dans certains stades. La combattre, c'est d'ailleurs l'objectif des participants rencontrés hier par William Delesseux.
Place de l'Hôtel de Ville, des stands, une scène multicolore. Les participants, professionnels ou non, se retrouvent avant le coup d'envoi des compétitions. Christian Guédon est handballeur.
C'est une grande réunion, une grande communion, où on n'est pas dans l'a priori et dans le jugement. Et donc, si je suis là, c'est pour représenter ces valeurs.
Dans son club, il n'est pas toujours facile d'être homosexuel.
De temps en temps, il y a des petites allusions, des équivoques, des choses comme ça, mais pas de façon très frontale, avec des vraies agressions.
C'est quoi ces équivoques?
C'est genre, ouais, tu cours comme une tafiole, ou alors t'as peur de prendre des coups, parce que voilà, c'est des équivoques de ce style-là, mais faut savoir après être intelligent et puis repositionner un petit peu le discours.
Comme un malaise dans le sport, un constat partagé par le Belge Christophe Demey. Il dirige un club, cette fois-ci exclusivement LGBT, lesbien, gay, bi et trans.
Tu as encore le lien entre être sportif et masculin et fort, et donc d'après moi, on n'a pas encore vraiment coupé ce lien, le fait qu'il y a encore des gens qui viennent uniquement chez nous parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans notre cercle sportif, ça veut dire que les gens ne se sentent pas encore à 100% à l'aise. Et c'est un peu le fait que tu dois encore faire ton outing quand tu vas faire du sport et certains gens n'ont pas envie.
Pour Marion Lemoine, nageuse et coureuse, il est nécessaire d'aller plus loin.
J'ai peur que le travail qu'il faille faire soit le travail de toute la société et pas juste dans le sport, quoi. Je pense que si toute la société travaille à l'acceptation des corps différents, de dégenrer un certain nombre de choses, y compris de sport, ça rejaillira sur le sport, mais que isoler une action juste dans le sport, ça ne suffira pas.
Prendre des mesures concrètes, il y a urgence pour Manuel Picot. Les rencontres comme les Gay Games sont importantes d'après le coprésident des Jeux, mais elles ne suffiront pas à mettre fin aux présupposés.
Il y a un travail énorme en fait à faire dans le monde du sport pour que effectivement on n'ait pas besoin d'événements spécifiques, qu'on n'ait pas besoin d'assistance association où on est accueilli de manière beaucoup plus bienveillante. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrive à casser les insultes. Si chacun peut être ce qu'il est réellement, eh bien, il est encore meilleur dans le sport, il est encore mieux dans ses relations sportives. C'est ça qu'on veut vouloir promouvoir.
Certaines pratiques restent ancrées chez une partie des Français. D'après une étude Ipsos, 1 sur 3 par exemple déjà tenu des propos homophobes pendant un match de football.
Le reportage de William Delesseux, bien sûr, pour Mondial Sport. Mondial Sport qui vous dit déjà au revoir, c'est fini pour ce soir. Rassurez-vous, on ne prend pas de vacances, on revient très vite, samedi prochain précisément. D'ici là, vos rendez-vous habituels, les journaux des sports tous les matins, tous les soirs. Et notez déjà sur vos petits agendas la rentrée d'Annie Gasnier et de toute l'équipe de Radio Foot International. En fin de semaine prochaine, vendredi 10 août pour être précis, merci d'être fidèle au poste. Merci aussi à ceux qui sont aux manettes, Thomas Trochot et sa bande. Tout de suite, un nouveau journal. Bonne soirée à l'écoute de RFI.